Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Une heure d'entretien nous mène chaque soir de 21h à 22h et fait entendre ceux qui créent, pensent, dessinent, dansent, écrivent par les temps qui courent. L'émission est imaginée avec Jeanne Aléos, Corinne Amard, Romain de Bec-de-Lièvre et réalisée par Lise-Marie Barré. Aux manettes ce soir, Delphine Baudet.
La notion d'invisible, ce pourquoi elle est intéressante, c'est qu'elle met une astérix à la notion de perception.
Par les temps qui courent, Marie Richaud.
Ce soir, avec Joanne Le Guillen. Tout ce qui tourne en vous et autour de vous, tout ce mouvement, il vous apparaît parfois qu'il faudrait inventer de nouveaux points de vue pour les démêler. De nouveaux angles, un œil ou un cœur en équilibre, des croix sur la piste ou se tenir pour faire vaciller la connaissance du monde. Eh bien, ce que l'on appelle cirque offre parfois cela, un point depuis lequel sentir corps et matière autrement disposés, révélés dans leur continuité. Au cirque, l'homme vient voir l'homme et peut-être s'étonner d'en être, dites-vous Joanne Le Guillen. S'étonner ensemble d'être des hommes ensemble, d'être aussi fait de cette matière-là et savourer la perte de repères comme un possible renouveau. Vous signez depuis plus de 20 ans une œuvre sans début ni fin, un livre infermable, irrefermable peut-être. Vous venez d'obtenir le grand prix de la SACD pour l'ensemble de cette œuvre et votre projet Attraction déploie ses nombreuses tentacules. Joanne Le Guillerme, bonsoir et merci d'être là.
Oui, bonsoir.
Ce projet-là, je dis qu'il déploie de nombreuses tentacules. On dira combien il est composé de nombreux volets. On peut citer par exemple à l'automne qu'en septembre, le spectacle Secret, qui est un spectacle sous chapiteau, pourra être vu dans le cadre du festival Pronomade. Mais il y aura aussi une transhumante, on va développer. Plus tard, en octobre, à Lausanne, à Vidi, au théâtre Vidi, on pourra voir des spectacles, mais aussi des installations. Et puis, en tournée, on pourra entendre et voir cette forme qui s'appelle Pas grand-chose. Alors, pour qu'on puisse essayer de poser des premiers jalons et donner à entendre, à défaut de pouvoir donner à voir, l'univers de votre travail, est-ce que vous pourriez vous décrire en train de faire quelque chose, un faire quelque chose qui révélerait peut-être l'essence de ce que vous faites depuis des années ? Un geste ?
Un geste, un des plus vieux numéros que je fais peut-être, qui est un numéro de dressage d'avion en papier. Donc, alors si je vous décris le geste, je fais pan-pan et une feuille tombe du ciel. Et je la ramasse, je fais un avion en papier avec. Je l'adresse un tout petit peu pour l'apprivoiser. Et puis, je jette cet avion en l'air et il atterrit sur ma main. Et je répète plusieurs fois ce geste. Et puis la troisième fois, je fais pan-pan et il meurt.
L'avion en papier.
Oui. Il tombe au sol. Il ne vole plus, quoi.
En quoi c'est un geste qui est révélateur du travail, justement, comme vous dites que c'est un des plus vieux numéros. En quoi est-ce qu'il dit quelque chose de votre travail ?
Alors, il montre un savoir-faire, qui est de savoir faire un avion qui sache voler puis revenir à moi, ou qui sache mourir en vol, juste parce que je fais pan-pan. Donc, c'est un travail du savoir-faire, c'est une pratique minoritaire liée à un savoir-faire particulier. Et puis après, il montre quelque chose que l'homme fait depuis toujours, tout le temps. Enfin, le monde est fait comme ça, et de ça, de construire et détruire. C'est-à-dire d'être, ne plus être.
Quand vous parlez de savoir-faire, on peut entendre aussi l'idée que ce sont des savoir-faire qui sont transmis. Vous avez une formation, c'est pour ça que je parlais du cirque, même si aujourd'hui votre pratique outrepasse ce qu'on peut entendre sous ce terme-là, mais qu'est-ce qu'il reste de ce que vous avez appris du cirque il y a des années ?
Ce qui reste, c'est toute l'expérience de se confronter au monde avec son corps, avec sa matière. Après, ce qui peut rester... Pour moi, au niveau du cirque, ça va être d'abord l'espace, qui est l'espace des points de vue, et de développer des pratiques minoritaires dans cet espace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me tourne vers des pratiques minoritaires non traditionnelles, et je laisse les pratiques minoritaires traditionnelles au cirque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me définis plus vraiment comme un artiste de cirque, mais comme un praticien de l'espace des points de vue. C'est-à-dire, je cherche un espace un peu plus libre et plus ouvert que ce à quoi correspond le cirque aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous entendez par pratique minoritaire ?
Pratique minoritaire, c'est tout ce qui ne se fait pas, ce qui ne se fait plus ou ce qui ne s'est jamais fait. Et moi, je m'attelle à trouver de nouvelles pratiques minoritaires que je vais montrer dans l'espace des points de vue, c'est-à-dire dans le focus central, c'est-à-dire qu'une piste, il y a un spectateur qui est autour, et tout ce que je fais dans mes travaux se développe avec l'idée de le montrer dans l'espace des points de vue. C'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'espace des points de vue ne va pas réfléchir de la même manière que quelqu'un qui travaille sur une scène frontale. C'est comme le rapport d'un sculpteur ou d'un peintre. Il n'y en a pas un. Enfin, c'est deux mondes et deux manières très spécifiques d'envisager le geste.
Ça veut dire que vous avez davantage la possibilité de tourner autour du geste, en tout cas de multiplier les façons de le saisir, de multiplier les endroits depuis lesquels le saisir, ce geste-là ?
Disons que c'est pas, il n'y a pas de notion de valeur, il n'y a pas d'avantage, c'est autrement. C'est une autre réflexion. C'est-à-dire de penser que le geste va être vu de tous les points de vue, c'est très différent que de penser que le geste va être vu d'un point de vue. C'est une autre, c'est un autre savoir-faire, une autre réflexion, comme celle du sculpteur et du peintre.
Il est beaucoup question de mouvement et on va revenir justement sur la manière dont le mouvement existe dans votre pratique aujourd'hui. Il est aussi question de mouvement parce que vous bougez beaucoup, vous voyagez beaucoup. Il a été écrit que vous avez fait un tour du monde. Quel était ce tour du monde et qu'est-ce que vous y avez vu, attrapé, saisi ?
Alors j'ai fait ce tour du monde il y a maintenant un petit moment, c'était en 2000. Je cherchais à me déstabiliser physiquement, culturellement, enfin à tous les niveaux possibles pour motiver un instinct de survie. Et aussi, mon prétexte était de rencontrer l'atmosphère terrestre. Puisque je travaille pour les hommes, j'avais besoin de me faire une idée de cette ambiance, enfin de cette atmosphère terrestre dans un temps un peu court, d'une année, un peu plus d'une année. Confronté, de passer à travers différentes cultures, différentes latitudes, différents climats, enfin, déstabiliser mes habitudes.
Quand vous dites que c'était pour motiver un instinct de survie, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que dans une forte instabilité, je pense que l'instinct de survie est boosté, cherche à saisir des repères stables. Et de chercher une stabilité dans l'instabilité, ça demande à trouver quelque chose qui est toujours là, malgré que tout soit toujours différent.
Qu'est-ce qui a été marquant dans ce tour du monde-là ? À quel moment, par exemple, cette déstabilisation a donné lieu à quelque chose, à créer quelque chose ?
Peut-être que quand je suis revenu de ce tour du monde, justement, la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était justement le minimal, le point. Et quelque part, je pense que c'est tout à fait lié, puisque je venais de faire le tour du monde, donc le tour de la Terre, qui est aussi un point. Et en revenant, j'ai commencé à faire exactement la même chose, à continuer, mais qui n'était plus un travail physique, mais plutôt un travail de la réflexion, une réflexion. Sur le point, sur ce minimal, sur cette chose qui, je me disais, si j'arrivais à comprendre ce quoi serait fait pas grand-chose, je retrouverais forcément ce minimal dans n'importe quelle chose plus complexe. Et j'ai ouvert donc un observatoire autour du pas grand-chose, donc du point, qui m'a amené à rencontrer, comme je l'avais prédit, un peu tout le reste du monde. Donc j'ai rencontré à travers le point la mathématique, la géométrie, la philosophie, la topographie, le patati, le patata et tout et n'importe quoi.
Le pas grand-chose, c'est aussi le titre d'une des formes prises par votre travail actuel. Comment est-ce que vous décririez cette forme ?
Oui, alors le pas grand-chose, c'est C'est une conférence pataphysique sur la science de l'idiot, qui est la science que je développe depuis ce retour du Tour du Monde, donc, où j'explique un peu l'histoire de cette recherche, les chantiers, les choses que j'ai rencontrées sur ce chemin. Et c'est d'ailleurs le seul projet qui est à diffusion frontale, c'est-à-dire que là, je donne mon point de vue sur cette recherche, alors que jusqu'à là, dans mes différents travaux, j'ai donné les recherches au point de vue. Et là, je prends la parole et je suis face à un public. J'ai un écran géant dans le dos et des caméras, et une sorte de petit établi avec des caméras que je peux manipuler. Je fais des démonstrations et j'explique différents chantiers rencontrés sur ce chemin de l'observatoire autour du pas grand-chose.
Qu'est-ce que ça modifie avec les gens qui sont là et qui vous regardent, le fait qu'ils vous écoutent et que vous preniez la parole précisément, que vous utilisiez des mots, alors que dans vos formes précédentes ou dans les formes qui sont produites à côté, eh bien vous utilisez des formes, du mouvement, de la matière, mais pas forcément de parole?
Ça change un peu tout. Disons que jusque-là, chacun perçoit ce que je montre, mais à partir de son point de vue et de sa culture. D'ailleurs, chacun est fait d'une culture différente. Je conçois la culture comme étant le par où on est passé, chacun, et par où les éléments nous raccordent à des symboles. Les symboles, chacun, il n'y a pas de symbole universel. On va dire que chacun a une signification à chaque chose. Donc, dans mes installations, par exemple, j'ai une partie qui s'appelle les imaginographes, qui sont des outils que le public peut manipuler. Il y a des petites notices d'emploi, qui sont des petites vidéos de 2 minutes, qui donnent la manière dont on peut utiliser ces outils. Mais ensuite, chacun va trouver dans ces outils quelque chose qu'il connaît personnellement, de manière intime, parce qu'elle parle de choses essentielles, et que chacun va le reconnaître pour soi-même. Dans son corps de métier, dans sa culture, comme je disais, ce à quoi ça lui fait penser. Et pour moi, c'est tout autre chose. Et pour chacun, d'ailleurs, chacun des spectateurs, il voit quelque chose de différent de l'autre, parce que sa culture n'est pas la même. Son point de vue n'est pas le même.
Et donc, dans cette conférence, le pas grand-chose, d'un seul coup, vous abandonnez peut-être la singularité des points de vue de chacun pour prendre la parole et donner quoi, une sorte de version officielle ou la version de Joanne Le Guillaume?
Non, c'est pas la version officielle, c'est ma version, chacun sa version. Moi, je donne la mienne et bon, en plus, c'est moi qui l'ai inventé, donc ça donne un autre point de vue.
C'est quelque chose dont vous avez eu besoin à un moment donné, de prendre la parole sur votre travail?
Je me suis rendu compte, oui, que ça pouvait être intéressant aussi, mon point de vue, vu que j'étais l'auteur de ces choses. Mais mon point de vue tout seul n'est pas intéressant, c'est l'accumulation des points de vue qui est intéressant. Toujours.
Le premier problème de l'invisible, c'est qu'il est partout. Si on prend juste le terme invisible dans sa définition commune, l'invisible sature notre monde. On est entouré de gens qu'on ne voit pas, mais qu'on entend. Alors, vos auditeurs, par exemple, nous entendent sans nous voir. On est un petit peu des choses invisibles pour eux, mais d'une façon plus profonde, plus quotidienne et plus problématique. On est entouré de microbes, de bactéries, de virus qui nous traversent, qui nous habitent, qui nous parasitent et qu'on ne voit pas.
Joanne Le Guillaume, on entend ici la voix d'un anthropologue qui s'appelle Grégory Delaplace et qui parlait à ce même micro il y a quelque temps de la notion d'invisible. De manière générale, il dit que l'invisible sature l'expérience qu'on fait du monde. Et votre souffle là, qui sature le micro. En quoi est-ce que votre travail s'intéresse à la notion d'invisible, du visible, de la révélation, du regard? Vous parlez parfois de protocole de regard. Pourquoi est-ce que c'est central dans votre pratique aujourd'hui?
Parce que très vite, dans cet observatoire autour du pas grand-chose, donc quand je me suis mis à regarder le point, une des premières constats que j'ai fait est que, je me suis aperçu que ce que je vois me cache toujours quelque chose que je ne vois pas, et que cette chose que je ne vois pas est cachée par ce que je vois. Et bon, vu comme ça, ça paraît évident, mais c'est très grave. Parce que depuis toujours, l'homme ne regarde que la moitié du monde et se contente de ne percevoir que la moitié du monde. Notre culture, nos sociétés sont faites en se contentant de la moitié de ce qui est. Tout simplement parce que notre regard est frontal et que ce que l'on voit nous cache toujours quelque chose que l'on ne voit pas. Et moi, je m'intéresse beaucoup à... Quand je me suis mis à regarder ce point, je voulais pouvoir au moins le regarder entièrement. Si c'était déjà pas grand-chose, si je ratais la moitié de pas grand-chose, c'était raté, quoi. Donc j'ai commencé à développer des outils et des techniques pour regarder les choses entièrement. Donc par exemple, j'ai tourné autour des choses, j'ai partagé mon point de vue avec quelqu'un qui se trouvait à l'opposé du mien, et qu'à deux, on avait une meilleure idée de cette chose, au moins avec deux points de vue contraires. Et puis je me suis introduit à l'intérieur des choses avec un regard explosif, donc le regard de l'imaginaire, le regard du ressenti, devenir les choses, la chose.
Ça passe par exemple par des rapports que vous entretenez avec de la matière ou avec des matériaux. Quand vous dites « je suis rentré dans la chose avec un regard explosif », si on essaye de décrire des choses dans lesquelles vous êtes récemment rentré, ce serait quoi ?
À tout le temps. L'idéal est de... Enfin, dès que j'attaque quelque chose, je deviens la chose. Elle m'habite ou je l'habite, c'est un peu la même chose d'ailleurs. Nous ne sommes plus qu'un. L'idéal, c'est de n'être plus qu'un pour bien comprendre, bien être la chose.
Ça, c'est quelque chose qu'on peut sentir à travers certaines de vos installations. Quelles installations, quels gestes vous permettent de ou bien vous rentrer dans la chose ou bien de faire rentrer les personnes qui expérimentent vos installations dans la chose ?
Alors, faire rentrer les gens dans la chose, ça, je n'y peux rien. Ça,
ils se débrouillent.
Ils se débrouillent, oui. Bien de gens ne rentrent pas. Mais bon, j'espère que certains puissent entrer, soient happés par les choses. Et si peut-être, ce qui peut les entraîner à rentrer dans les choses, c'est peut-être... moi, je cherche toujours à apporter une forme de déstabilisation dans mon travail. Et peut-être que justement, si j'arrive à déstabiliser en montrant des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, la déstabilisation peut aider à rentrer, parce que la déstabilisation va amener l'émotion. Je pense que l'émotion est liée à une distorsion du temps, et le temps de réajuster ses repères aux repères installés. Donc un nouveau repère, quelque chose qu'on avait l'habitude de voir par exemple, va apporter de nouveaux repères, donc apporter la déstabilisation, une forme de chaos mental. Et dans le temps d'une réajustement de cette nouvelle chose aux choses que l'on connaît qui sont stables, ce réajustement demande un temps qui est peut-être ce que j'appelle le réajustement de des repères. Et ce petit temps, apporte l'émotion, donc par cette déstabilisation. Enfin, c'est un peu confus, mais c'est pourtant ça.
Vous sauriez dire un moment à partir duquel vous vous êtes dit « ce n'est plus suffisant, j'ai besoin que ce soit dans ma pratique alors à l'époque de cirque ou aujourd'hui dans ma pratique artistique, ce n'est plus suffisant d'être sur les repères que je connais, il faut que ça explose, il faut que je sorte de ce qui m'est connu, de ce que j'ai appris ». Est-ce que vous sauriez dire s'il y a eu un basculement ?
Il y a eu un basculement, surtout un moment où je me suis dit je veux faire le point sur mes croyances et connaissances et de regarder les choses et de les accréditer par moi-même. C'est-à-dire je me suis dit je vais éprouver le monde plutôt que l'on tente de me le prouver, sachant que chaque jour il y a des tas de choses qui ont été prouvées qui tombent. Parce qu'elles ne sont plus d'actualité, la connaissance évolue et tout bouge. Et c'est pas fini de bouger d'ailleurs, il y a des choses qui vont, il y a encore des choses énormes qui vont bouger, je pense, dans la connaissance. Et donc je me suis dit, je vais faire mon propre point de vue sur le monde, quitte à créer mes propres erreurs et illusions, vu que notre monde est aussi dans une illusion. Moi, je vais tenter l'expérience d'éprouver le monde avec mes propres erreurs.
Et ça, c'est arrivé à un moment précis ?
Eh bien, peut-être justement à ce retour de tour de monde, quand j'ai décidé de commencer à faire le point sur mes croyances et connaissances. Parce que peut-être je ne comprenais pas tout à fait le monde tel qu'on nous l'explique. Et j'ai voulu faire le point.
Sur le point.
Voilà.
Ça veut dire que dans ce tour du monde-là, il y a des façons de connaître le monde, ou des façons de le regarder, ou des façons de le déconnaître qui vous ont heureusement surpris, qui vous ont heureusement déplacé, qui ont ouvert des horizons auxquels vous ne vous attendiez pas.
Il y a une expérience, oui, assez importante qui s'est passée dans ce tour du monde, une expérience de méditation sur un temps assez long, qui m'a permis de rencontrer un monde que je ne soupçonnais pas, qui est le monde d'une nature la plus proche de soi, c'est-à-dire soi-même, d'entrer dans une profondeur de méandre vraiment infinie, quelque chose de... C'est le monde le plus impressionnant que j'ai rencontré. Et alors qu'il est très accessible, enfin avec un peu d'effort, mais c'est le monde le plus proche, mais le plus vaste.
Parce que c'est le monde mental.
Oui, c'est ça.
Et c'est quand vous dites que c'est un monde complexe, c'est aussi un monde qui est chaotique. Est-ce que c'est ce chaos-là, ou aller à la rencontre de ce chaos-là, ne vous a pas effrayé ? Il ne vous a mis que en joie, il ne vous a rendu que curieux.
Il m'a effrayé. Il aurait pu m'effrayer, oui, parce que, enfin, je pense que j'ai pas fait ça tout seul. C'est des séances de 10 jours, 10 heures par jour.
Où ça ?
J'ai fait ça en Inde une première fois, j'ai refait en France. Sont tous les 10 ans, je fais à peu près, enfin jusqu'à là, ce genre d'immersion. Et oui, je suis accompagné 10 jours par des gens qui savent faire, mais tout seul, ça peut être assez effrayant, oui. Enfin, on peut se perdre en 10 jours sur des temps aussi longs, je pense. Et sinon, ce n'est pas que des temps agréables, mais par contre, c'est extrêmement intéressant. Tout dépend le chemin qu'on prend, mais je pense que tous les chemins peuvent être intéressants dans ce... Mais en tout cas, c'est très vaste et on peut se perdre. Il y a moyen de se perdre.
Est-ce que vous sauriez nous dire comment, pour des personnes qui n'ont jamais traversé cette expérience-là, comment est-ce qu'on est accompagné dans sa propre tête, dans son propre... dans son propre chaos mental ? Parce que vous dites, ça allait parce que j'étais accompagnée.
Disons que c'est des techniques, il y a des protocoles sur 10 jours, il y a des protocoles, il y a des manières d'entrer doucement, de sensibiliser aussi sa perception et d'entrer dans des niveaux de profondeur, on va dire. Et puis chaque jour, il y a des possibilités, quand on se perd, de parler avec les enseignants pour savoir si on est dans la bonne direction, si on peut être rattrapé. C'est dans ce sens-là, je dis, on n'est pas tout seul. Après, on est tout seul à travailler et c'est à chacun de se démerder dans son travail.
J'insiste un peu sur cette expérience-là parce que j'en avais pas connaissance, mais en essayant de me figurer la totalité de votre travail de manière mentale, j'avais précisément l'impression que vous ne cédiez pas sur l'idée qu'on puisse voyager à l'intérieur de l'esprit d'un autre, qu'on puisse, pourquoi pas, voyager à l'intérieur de votre esprit à vous, et que vous rendiez presque palpable, presque la matière de ce que c'est qu'un cerveau. Mais pour défendre ça aujourd'hui, dans le monde du spectacle vivant, pour défendre la complexité de ce que ça veut dire, que de donner accès à sa tête d'une certaine manière, il faut y tenir bon. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de difficile à défendre aujourd'hui, à proposer dans les théâtres, vos installations, de toujours garder l'idée que, par exemple, ça s'appelle attraction, que c'est pas facile à décrire en une phrase, que il va falloir peut-être passer du temps pour pouvoir comprendre que tout se tient.
Oui, excusez-moi, mais c'est la question que j'ai perdue.
Bah, la question, c'est est-ce que c'est difficile à défendre et pourquoi c'est important de le défendre ?
Alors, difficile, oui, c'est difficile à défendre, disons. C'est... Il y a des tas de gens qui le conçoivent. Bon, c'est pas une voie classique, donc forcément, ça demande à expliquer, ça demande un petit travail. Mais il y a plein de gens qui s'ouvrent à ce type de démarche, en tout cas. Et c'est important, enfin pour moi c'est essentiel, parce que mon travail, c'est pas un spectacle ou une exposition ou ceci, c'est vraiment l'ensemble qui est issu d'une même genèse, c'est une arborescence explosive régénérante, c'est un rhizome qui n'a pas de début ni fin, qui est toujours en mutation et qui s'enrichit au fur et à mesure. C'est un rhizome qui grossit tout le temps. Et chaque fois que j'amène un nouvel élément, il nourrit forcément l'ensemble de tous les éléments déjà existants. Donc c'est essentiel. Aujourd'hui, ce travail est essentiel dans cette dimension. Et en même temps, chaque élément est peut-être suffisant, et peut-être regardé sans avoir connaissance du reste, mais chaque élément cumulé donne une dimension différente, tout simplement sur le fait que, par exemple, deux choses amènent une troisième chose qui est le lien entre ces deux choses. Donc à partir de deux choses, on a tout de suite une troisième. À partir de trois choses, on en a six. À partir de cinq, on en a, je sais plus, dix ou plus. Enfin bref, à chaque fois que plus il y a de choses et plus il y en a, en comptant les liens entre les choses.
Il y a une partie de votre travail qui se titre comme ça, les monstrations. Mmh. Parce que d'un seul coup, vous avez envie de donner à voir.
Oui, donner à voir, mais aussi me donner à voir à moi-même, puisque la matérialisation de mon esprit. Enfin, ce que font les hommes depuis toujours, cherchent à matérialiser leurs pensées, à cristalliser leurs pensées à travers l'écriture, la peinture, la sculpture, la parole. Enfin, c'est une manière de cristalliser sa pensée, de la sortir de soi pour la projeter à l'extérieur de soi et pour prendre du recul dessus, peut-être. Même si je pense que de cristalliser sa pensée est toujours une erreur, dans le sens où...
Ça la fige.
Voilà, ça la fige, et que la pensée est en mouvement, et qu'à partir du moment où on fixe un mouvement, on est à côté du mouvement. Mais ça peut permettre de prendre du recul un instant pour, peut-être l'instant suivant, tenter la reprojeter à nouveau. Ça peut aider à prendre du recul, mais c'est une illusion.
Diotès en grec désigne tout ce qui est singulier, tout ce qui est unique, tout ce qui ne préexiste pas à lui-même. Donc c'est a priori synonyme d'originalité, de singularité en tout cas. Cette idiotie première, cette idiotie liée à la singularité, elle caractérise par essence l'œuvre d'art moderne. Et là je ne parle même pas des artistes, je parle de l'objet d'art proposé. Et ce qui est intéressant, c'est que l'artiste lui-même, et ça commence avec Les Incohérents dans les années 1880 à Paris, ça continue évidemment avec Dada, l'artiste lui-même essaye d'imaginer une posture qui puisse correspondre à la nature de l'œuvre qu'il produit. Et là, pour le coup, c'est l'artiste lui-même qui tente ou qui joue l'idiotie. Donc là, on n'a pas affaire à l'art brut, on n'a pas affaire à des fous, on a affaire à des gens absolument bien équipés intellectuellement. Ça relève de l'art cultivé et non pas de l'art populaire, mais des gens qui miment ou qui jouent à l'idiotie.
Joanne Le Guillaume, on entend ici la voix de Jean-Yves Jouannet. Il y a quelques années, en 2003, il publiait un livre sur l'idiotie, sur l'idiot, sur l'art, le savoir et la méthode de l'idiot. Il se trouve que c'est un mot, je ne sais pas si vous l'avez prononcé depuis le début de cet entretien, mais en tout cas, vous l'écrivez, vous le prononcez de temps en temps, la science de l'idiot, la méthode de l'idiot. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ?
Alors, la science de l'idiot, c'est la science de celui qui ne sait pas, mais qui tente le savoir. Et donc, c'est ma...
Qui tente le savoir ?
Oui. Oui, le savoir, qui tente de savoir le savoir. Et moi, je développe la science de l'idiot, j'appelle ça comme ça, parce que je tente le savoir, malgré tout ce que je ne sais pas de la science des scientifices, donc de fils de la science. Je ne suis pas du tout un scientifice. Donc, fils de la science, j'éprouve le monde, moi, à partir de mes propres expériences, mais pas de la connaissance déjà établie.
Et en même temps, vous avez une curiosité pour cette connaissance déjà établie, y compris pour la déstabiliser, pour la défaire, pour aller la chatouiller, mais on sent bien que vous ne voulez pas vous résoudre à simplement faire l'épreuve du monde, à éprouver le monde. Il y a un moment donné où vous allez la chercher, cette connaissance.
Dans quel domaine ?
Ben, quand vous faites appel à la mathématique, quand vous faites appel à la physique, quand vous faites appel, je ne sais pas, même à l'astronomie, ce sont des sciences qui sont établies. Vous n'avez beau ne pas être le fils des sciences, elle vous titille, cette science-là.
Elle me titille. Parfois, je fais appel à des gens qui la pratiquent dans des domaines spécifiques, dans des domaines... Oui, dans certains domaines, je fais appel à des gens qui font, qui ont ces connaissances. Mais personnellement, à ce jour, je ne m'y intéresse pas. Enfin, je travaille pas, je n'étudie pas la science. Je suis bien au courant de 2-3 trucs, quoi, mais pas grand-chose.
Je voudrais pas avoir l'impression de vous rapporter au cirque, qui semble en effet être quelque chose d'un peu lointain. Néanmoins. Dans le cirque, dans peut-être les premiers numéros, les premiers essais, il y a quelque chose qui vient aussi se confronter à, par exemple, la pesanteur, se confronter à des lois physiques, se confronter même, pourquoi pas, à des lois mathématiques. Est-ce que vous diriez qu'il y a quelque chose de votre formation circassienne dans la manière dont vous vous confrontez à la science ?
Oui, dans le sens où, finalement... Dans mon métier de circassien physique, jusqu'à un certain temps, j'ai cristallisé ma pensée à travers ma matière physique. Et puis après, dans un second temps, j'ai cristallisé ma pensée dans un corps extérieur à ma matière, mais avec exactement la même démarche, sauf que la matière était extérieure à la mienne. Et que d'éprouver le monde à partir de son corps physique, c'est très proche. Enfin, on a l'expérience du corps physique qui est aussi l'expérience d'un corps extérieur à son physique. C'est la même, c'est les mêmes. Tous ces mondes sont sous les mêmes contraintes terrestres.
Et donc, elle pose les mêmes questions. Vous diriez que c'est parce que vous avez éprouvé des choses dans votre matière, dans votre corps, ou vu d'autres corps éprouver des choses, que les questions sont arrivées, des questions sur l'équilibre, justement, la pesanteur, la matière dont on est fait.
Moi, je pense que c'est très lié, après, de projeter ma matière à l'extérieur de moi, c'est plus difficile, donc c'est peut-être là que j'ai eu besoin d'utiliser une matière extérieure à moi pour modeler des choses que j'ai ressenties à l'intérieur de moi, peut-être.
Et quand vous parlez de matière extérieure à vous, ce sont quoi comme matière, par exemple ?
Oh, c'est tout, n'importe quoi, tout ce qui est en dehors de moi.
Et que vous pouvez manipuler ou pas forcément ?
Que je peux manipuler, oui, mais enfin après, l'immanipulable, l'invisible aussi, peut-être, oui. Une matière non palpable.
Comme quoi ?
Peut-être ce qu'on appelle la matière grise aussi, peut-être.
Walk on the water if I, you and I, 'cause Quand on suspend, il y a comme le temps qui s'arrête un instant, dans la sensation. C'est comme s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, on peut regarder à travers. Et il y a... C'est un endroit où on peut accéder à quelque chose d'assez mystérieux, je trouve. Où ça pourrait durer une espèce d'éternité. Alors ça pourrait pas durer trop parce qu'on est, rappelé. Et c'est justement ça qui fait qu'à un moment, il y a un mouvement qui va naître. Et après, le mouvement redonne une temporalité. Et quand on regarde par quoi on scande le temps par le mouvement des astres. C'est-à-dire qu'on dit le soleil se lève, il est midi, le soleil se couche. C'est ce qui nous donne la mesure du temps. Mais du coup, c'est un mouvement, en fait. C'est la mesure du mouvement. Sauf qu'on met le mot temps dessus. Mais c'est infiniment troublant et mystérieux, cette affaire de temps.
Joanne Le Guillerme, c'est la voix de Chloé Moglia, qui est un extrait du documentaire Cirque, hors piste, un film de Nikos Argilet et Neti Radwani. On l'entend parler ici du mouvement. Dans le documentaire, on la voit même être en mouvement, en suspension. Elle dit que c'est parce qu'on pourrait être presque tenté par une forme d'accès à l'éternité, une sorte d'échappatoire au temps qu'un mouvement advient. C'est parce qu'on est rappelé. Jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup parlé du point, des points de vue, de la forme et peu du temps. Comment cette notion-là intervient dans votre travail ?
Alors le temps, moi j'ai un peu un problème avec le temps. Je ne suis pas très fort en temps, en fait.
Ça veut dire quoi, être pas très fort en temps ?
Ça veut dire que... La notion de temps, c'est quelque chose que je maîtrise pas du tout. Dans le sens où, si vous me demandez quelle année vous avez fait ça, je serais incapable de vous dire. Oui, c'est complètement flou. Aussi bien dans le passé que pour l'avenir. Mais peut-être parce que le temps est lié à cette histoire d'émotion. Je dis le temps serait une distorsion d'émotion. Donc le temps, ça veut un peu rien dire. C'est une perception. Mais à quoi il se réfère vraiment ? Là, on a une horloge, oui. Mm. Mais si on n'a pas l'œil tout le temps sur l'horloge...
On ne l'a pas eu, d'ailleurs, l'œil sur l'horloge.
Oui, on ne l'a pas, non. Voilà, si on n'a pas ce référent tic-tac, le temps, est très variable.
Mais alors quand vous dites « je ne suis pas très fort en temps », c'est peut-être tout simplement parce que ça ne vous intéresse pas. C'est pas tellement de ne pas être fort en temps, c'est peut-être que simplement c'est une notion qui n'intervient pas dans votre travail.
Oui. Enfin, je sais pas comment le capter. Il doit manquer un cadran.
Quand Chloé Moglia dit que c'est d'être presque tenté par la suspension du temps que naît le mouvement, qu'un geste se fait, vous, peut-être, vous n'êtes pas très fort en temps, mais vous êtes fort en mouvement, vous travaillez. Je sais pas, par exemple, là me vient l'image de la motte, cette très grosse structure qui se déplace si lentement, qui nous donne à voir un mouvement. Moi, je me dis qu'elle donne aussi à voir du temps. Vous, vous diriez non, pas du tout?
Si, elle demande du temps pour la voir.
Est-ce qu'on peut la décrire un petit peu?
Alors, la motte, oui. Alors, ça peut être facile, mais alors, la motte, c'est une sorte de planète à portée de vue qui aujourd'hui fait 2,50 m. C'est un objet qui est un prototype d'une finalité qui doit faire 12 mètres de haut. Qui est 12 mètres, c'est un millionième du diamètre de la Terre. Et quand elle fera 12 mètres, cette planète sera un outil qui pourrait aider l'homme à réaliser qu'il est sur un ensemble à partir de cette planète à portée de vue. Il n'y a que les cosmonautes qui ont la possibilité de prendre justement du recul par rapport à la Terre et de réaliser que la Terre est un ensemble. Et là, donc, je crée une... L'idée, c'est de créer une planète pour l'amener sur Terre, plutôt que d'emmener tout le monde
dans l'espace.
Dans l'espace, ça va être plus simple. Donc j'ai créé la MOTE, qui est une planète à portée de vue qui est composée de 5 pôles, qui est un objet qui est végétalisé. Alors c'est là que ça se complique, c'est pour expliquer comment elle se déplace. La MOTE est issue d'un laboratoire qui s'appelle les circumambulatoires, qui est une étude sur les différentes manières de faire le tour d'un ensemble à partir d'un chemin cyclique. Alors je crée un labyrinthe à partir d'une boucle qui en serre la totalité d'un noyau. Ensuite je pose cette boucle sur le sol, donc la motte appuie sur le sol, et ensuite elle déroule son chemin topographique, qui exploite la totalité de la topographie d'une sphère. Et elle se déroule trois fois, elle se déploie trois fois, et la troisième fois, elle revient exactement à son point de départ, et elle crée une boucle de circulation qui emprunte la totalité de sa surface. Et ce chemin est semé d'une végétation qui pousse dans l'instabilité du mouvement généré par la forme de l'objet. Et donc on a une planète qui bouge tout le temps, avec un cheminement et un mouvement très particulier, et dont la végétation pousse dans l'instabilité de ce mouvement généré par la forme. Et à la fin, l'esthétique de l'objet est gérée par le mouvement, puisque chaque individu végétal cherche une direction de pousse, et que la pousse est liée à la luminosité et la gravité. Comme cet objet est toujours en train de bouger, et que chaque végétal a parfois la tête en bas, des fois sur le côté, parfois vers le haut, elle doit enregistrer sa position favorable pour pousser. Et chaque individu a une position favorable pour pousser différent, une direction différente, et l'ensemble de ces différences crée une direction de pousse, des directions de pousse qui créent des sortes de chemins, un peu comme ce qu'on a au-dessus de la tête, où les animaux aussi, au niveau de la pilosité, ont des sortes de courants. Et la motte a des courants de pousse végétales qui sont la finalité esthétique de l'objet.
tout à l'heure que vous étiez défiant ou un peu loin de la connaissance scientifique. Moi, j'ai quelques vagues souvenirs de classes de mathématiques ou de classes de biologie. J'ai l'impression qu'il faut quand même en avoir deux ou trois vagues souvenirs pour concevoir un objet comme la motte.
Eh ben non, 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 pas du tout. Non, non, il suffit de...
D'observer ?
Pour concevoir la motte et travailler sur les exploitations totales de surfaces sphériques, il faut prendre... Par exemple, j'ai travaillé avec des clémentines, en épluchant des clémentines, ou en modelant ces chemins méandriques autour de boules de pâte à modeler, par exemple, en essayant de comprendre le chemin le plus court et des chemins le plus complexes, des différentes manières de faire le tour d'un ensemble, par exemple.
Et en essayant.
En faisant, en modelant, en essayant. Oui, oui, en prenant beaucoup de notes, parce que ça devient très vite complexe. C'est encore une fois une arborescence explosive, régénérante.
Ça veut dire que vous passez beaucoup de temps à travailler avec des objets plus ou moins grands, plus ou moins gros, plus ou moins faciles à manier, pour mettre en forme des questions, des expériences, presque des équations, et les résoudre.
Les résoudre, je sais pas, surtout je les fais apparaître. Enfin, quand je dis je prends des notes, en fait, je prends pas beaucoup de notes avec des écrits.
Vous faites des dessins?
Je fais des dessins, mais aussi beaucoup de modélisation. Par exemple, sur cette recherche des circumambulatoires, c'est très compliqué de mémoriser les différentes manières de faire les tours d'un ensemble, surtout si vous en avez plus, vous commencez à en créer plus de 50, plus de 100. Et qu'en plus, ce que je vois me cache toujours quelque chose que je ne vois pas. Donc si
comme
je
on
comprends,
disait tout à l'heure.
Voilà, si je comprends mon chemin, par où passe telle forme sur un ensemble, sur une boule, je vais voir une face, mais je ne vais pas voir l'autre. Et là, ça devient compliqué, donc il faut prendre des notes en volume. Donc je me retrouve avec plein de petites boules, avec plein de différents tracés, et j'arrive après à retranscrire ces tracés sur le plan pour justement le pouvoir voir aussi bien devant que derrière. Enfin, j'ai des méthodes de prise de notes qui ne sont pas des méthodes écrites avec des mots, par exemple.
À quoi ressemble l'endroit où vous travaillez, Joanne Le Guillaume ?
Ça ressemble à une sorte d'établi, d'atelier laboratoire avec des matières, des valises avec plein de sortes de matières différentes, des quelques outils, beaucoup de matières.
De matières, c'est-à-dire beaucoup de matériaux, quoi.
Oui, beaucoup de matériaux très différents. J'ai des valises, une sorte de bibliothèque de matériaux, on va dire.
Vous y passez du temps ?
Pas assez, mais dès que c'est possible, oui.
Parlant, trace. Pendant des mois, sa main a tracé des ronds. Des ronds et rien d'autre. Elle en trace encore. Il tourne. Il tourne soit sur lui-même, les mains dans le dos, l'une tenant l'autre, soit en courant. Comme si quelqu'un était au centre de son manège. le tenant au bout d'une longe.
C'est la dernière chose qu'on voulait vous faire entendre, Joanne Le Guillerme. C'est un extrait du film Le Moindre Geste, qui date de 1971. C'est un film de Fernand Deligny, tourné dans les Cévennes, qu'on pourrait dire beaucoup trop vite, situé entre le documentaire et la fiction. Et c'est une façon de rendre compte de la manière dont il avait testé quelque chose avec des enfants qui lui étaient confiés, notamment ce Yves dont on entend les petites paroles et la manipulation des objets qui ne parlait pas. Fernand Deligny qui observait ses enfants et notait les traces qu'ils laissaient, les traces de leurs mouvements. Et on entend là qu'il observe un enfant qui tourne en rond, parfois les mains déliées, parfois les mains derrière le dos. Je ne sais pas pourquoi, moi, j'ai l'impression que la figure du cercle a une valeur très particulière dans ce que vous développez, Joanne Le Guillerme. Est-ce que je me trompe, et sinon, pourquoi ?
Alors, vous vous trompez un peu.
C'est pas grave.
Non, c'est que souvent, on me parle du cercle. Et moi, ce n'est pas tellement le cercle qui m'intéresse, c'est le point. C'est-à-dire, c'est le centre. Le cercle n'étant que le tour du centre. Voilà. C'est pas que vous vous trompez, c'est que tout le monde...
Mais si, ça dit peut-être quelque chose, en fait, que tout le monde pense au cercle et pas au point.
Oui.
T'as dit quoi ?
Ça dit qu'on s'intéresse à la surface et pas au fond. Enfin, le point me paraît être l'irréductible du cercle, peut-être.
Parce que le cercle en est composé.
Il y a un point dans le cercle. Est-ce qu'il y a un cercle dans le point ? Peut-être. Mais c'est déjà trop compliqué. Je trouve que le point est plus intéressant. Mieux vaut s'intéresser au minimal parce qu'on est plus sûr de décrire de quoi il est fait. Que si on ne commence pas par le minimal, on peut vite se perdre.
Une des autres raisons pour lesquelles on voulait terminer par ce film-là, c'est parce qu'il s'agit d'enfants et d'enfance. Il y a une partie du travail de la compagnie qui est tournée dans le travail de la médiation vers les enfants. À quel genre de moment cela donne lieu, ces moments de médiation, de votre travail avec les enfants ? Qu'est-ce que vous observez qu'ils saisissent de tout ça ?
Je trouve que les enfants, ils comprennent plein de choses. Ils ont un regard très différent du nôtre.
Pourquoi ? Il faut détailler ça quand même.
Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas encore formatés parce qu'ils ne savent pas encore. Enfin, ils ne savent pas.
Ils ne savent pas comment c'est.
Ils ne savent pas comment il faut regarder encore les choses. Ils regardent les choses d'une autre manière. Oui, enfin, je crois vraiment que là, ils ne sont pas encore complètement formatés. Donc, ils ont plus de liberté.
Vous voulez regarder comme ça ? C'est un regard qui vous intéresse ?
Oui, 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 forcément. C'est toujours intéressant, je trouve, la multitude des différents regards, le regard d'un enfant et le regard d'un adulte. Enfin, dans tous les projets que je monte, je trouve toujours intéressant d'avoir tout le monde. C'est-à-dire que les enfants, les plus âgés, les gens très cultivés, les gens moins cultivés. Et tous apportent quelque chose à l'autre, ne serait-ce qu'en manifestant leur émotion quand ils voient quelque chose. Parce que le voisin, d'entendre l'émotion ou la réaction de quelqu'un juste à côté de soi, peut donner une indication sur quelque chose que l'on n'a pas su voir avec son regard. Et donc, dans un public, les gens à côté de soi amènent... alerte sur des choses que l'on pourrait rater.
Pour qui voudrait se trouver dans le public et alerter sur des choses qu'on pourrait rater, on pourra voir votre travail en septembre dans le cadre du festival Pro Nomade, le spectacle secret, si l'on peut dire. C'est un spectacle sous chapiteau et puis une transhumante qui est plutôt une forme d'installation qui bouge. On pourra aussi voir votre travail en octobre au Théâtre Vidi à Lausanne, là encore sous différentes formes, installation et plus spectaculaire. Et puis on renverra vers l'ensemble de votre site pour avoir des dates plus précises. Merci beaucoup, Joanne Le Guillerme, d'avoir été avec nous ce soir.
Oui, merci à vous.
par les temps qui courent, où ne poseriez-vous pas vos pieds ?
Mais partout où je ne serais pas à revenir.
Partout d'où vous ne seriez pas à revenir ?
Oui.
Par les temps qui courent, dans quoi se fondre ?
Très bonne question. Je pense que par les temps qui courent, il faut arriver à se fondre n'importe où. Enfin, la bonne place, c'est se fondre par les temps qui courent, je crois. Parce que c'est le meilleur moyen de ne pas être emmerdé.
Par les temps qui courent, on se retrouve demain à 21h avec le musicien Thomas de Pourquerie.